Suite des matins avec la revue de presse internationale de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour.
Les journaux à travers le monde essayent de voir plus loin que le tapis rouge déroulé par la France au président chinois.
Oui, derrière la pompe et le protocole déployé depuis dimanche à Nice puis Paris, difficile, écrit Adam Nociter dans le New York Times, de ne pas sentir à quel point la France et Emmanuel Macron sont sur leur quant à soi face à la Chine. À travers l'insistance du président français à imposer à l'agenda aujourd'hui la présence d'Angela Merkel et de Jean-Claude Juncker, il y a cette idée que seule une réponse européenne unifiée est valable face à ce qui est ressenti comme une volonté hégémonique de la Chine en Europe. Et l'on retrouve là, nous dit Adam Nociter, toute l'ambiguïté de la relation entre la France et la Chine, pays qui nous délivre par milliers chaque année ses touristes avides de nos produits de luxe, mais qui nous livre aussi une concurrence féroce et directe dans ce qui fut notre ère d'influence africaine. Vu d'Allemagne, dans les pages de Die Presse, on lit que la rhétorique du front européen uni brandi par Emmanuel Macron face au président chinois confirme l'attitude de plus en plus conflictuelle qu'adopte l'Europe vis-à-vis de la Chine. À Zurich, la Neue Zürcher Zeitung remarque qu'ailleurs que la visite de Xi Jinping à Paris depuis hier se déroule avec tout de même moins de faste que la précédente et surtout avec plus de réserves exprimées par l'Élysée sur la stratégie expansionniste de Pékin. Emmanuel Macron veut imposer des limites au président chinois, écrit le quotidien de Suisse alémanique, mais qu'on ne s'y trompe pas, le décalage reste saisissant entre ses positions politiques affichées et la réalité économique. Car en France, comme ailleurs confirme Die Presse, les postures critiques s'évanouissent dès qu'il s'agit de signer de gros contrats avec la République populaire. En témoigne cet accord commercial paraphé hier et que le South China Morning Post qualifie de contrat mammouth. La Chine s'engage à acheter 290 avions Airbus, il y en a pour 31 milliards d'euros. Et comme ça concerne des avions de type A320, c'est aussi un gros coup dur pour l'américain Boeing en pleine crise après les deux crashs successifs de ces 737 MAX 8 qui sont le modèle concurrent direct de l'A320 européen. Sur ce sujet des Boeing qui s'écrasent, le New York Times nous révèle les résultats des derniers essais réalisés par l'avionneur américain en recréant les conditions de la catastrophe aérienne d'octobre dernier en Indonésie. Les pilotes d'essais se sont rendus compte qu'ils ne disposaient que de 40 secondes après le décollage pour désactiver une procédure automatique défaillante et éviter une perte de contrôle de l'appareil. Mais ça, les pilotes de Lion Air en octobre et d'Ethiopian Airlines le mois dernier ne le savaient pas.
Deux autres avions dans l'actualité sud-américaine, Camille, ceux que la Russie a fait atterrir à Caracas ce samedi.
Deux appareils militaires qui ont débarqué, une centaine de soldats russes et 35 tonnes de matériel. Pas de doute pour le Wall Street Journal. Moscou affiche son soutien à Nicolas Maduro au moment où ce dernier crie au complot ourdi par les Américains et leur marionnette Juan Guaido pour le faire assassiner. Maduro isolé, privé d'argent après des mois de bras de fer et de sanctions internationales, mais Maduro qui s'accroche toujours et qui peut compter donc sur l'appui démonstratif de son allié russe. Et il n'y a là rien de mystérieux, dit-on dans la presse officielle à Caracas comme à Moscou. La Russie et le Venezuela ont des accords d'entraide militaire, ils ne font que les appliquer, résume El País. Sauf que, vous vous en doutez, Washington ne l'entend pas de cette oreille et ça donne cette déclaration de Mike Pompeo citée par El Nuevo Herald. Les États-Unis et leurs alliés dans la région ne resteront pas les bras croisés alors que la Russie exacerbe les tensions au Venezuela. C'est ce qu'a dit hier le secrétaire d'État américain au chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lequel lui a répondu en accusant Washington de préparer un coup d'État contre le président élu du Venezuela. Voilà donc où nous en sommes et voilà qui fait s'interroger le quotidien Gazeta en Russie. Le Venezuela serait-il en train de devenir une nouvelle Syrie, autrement dit le prochain théâtre d'un affrontement militaire mondialisé? La Gazeta n'élude rien des enjeux pétroliers qui alimentent les appétits des grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, mais aussi Chine, là encore, et de conclure qu'avec les élections présidentielles américaines qui se profilent déjà, Donald Trump va avoir besoin de victoires éclatantes sur la scène internationale. Alors non, l'hypothèse d'une guerre au Venezuela n'est vraiment pas à exclure.
Et dans quelques instants, on va parler de la situation au Mali avec le risque djihadiste. On se rapproche du Mali, tandis que s'installe le professeur Jean-François Bayard en Algérie, avec la contestation du système Bouteflika qui reste vive et le système qui se défend, Camille.
Oui, les journaux algériens Algérois détaille ce matin les différentes tentatives du pouvoir en place pour saper le mouvement populaire. Dans El Watan, par exemple, on nous explique qu'une véritable cyberguerre est en cours pour faire peur aux Algériens et les dissuader d'aller manifester. Sur les réseaux sociaux, des centaines de comptes anonymes ont fait leur apparition ces dernières semaines. Ils inondent la toile de vidéos montrant, par exemple, un obscur groupuscule islamiste en train de se mêler aux manifestants anti-Bouteflika. La tentative est claire. Selon El Watan, il s'agit d'agiter la peur d'un retour de l'islamisme et des années de sang, la décennie 1990. Autre visage de l'intimidation, toujours dans El Watan, des magistrats qui prennent part à la contestation font face à des pressions, des menaces de sanctions de la part de leur hiérarchie dominée par le ministre de la Justice. Enfin, le site d'info Tout sur l'Algérie, TSA, revient, lui, sur cette manifestation hier de journalistes de la télévision nationale ENTV, slogan contre la censure d'État qui reste la norme.
Notre problème et notre objectif, c'est de faire des journaux télévisés réels qui reflètent la réalité du terrain aujourd'hui.
Alors ce message aurait-il enfin été entendu en haut lieu? En tout cas, TSA nous apprend le limogeage dans la soirée d'hier du patron de NTV. Dans le contexte actuel, ça pourrait passer pour un signe de bonne volonté adressé à la rue, sauf que l'identité du nouveau titulaire du poste pose problème. Lofty Chriet, c'est son nom, est considéré comme un proche, un fidèle parmi les fidèles du cercle présidentiel. Le pouvoir politique fait encore fausse route, conclut Tout sur l'Algérie. Sa décision est d'abord un coup d'épée dans l'eau parce que la télé d'État algérienne n'a plus tellement de poids à l'heure des réseaux sociaux. Elle est surtout un signe de plus que le système est prisonnier de ses vieux réflexes et imperméable aux réformes.
Merci Camille Magnard. Il est 7h42 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.